Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors nous en sommes dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, vous avez vu que c'est un très grand livre. Et vous avez vu que souvent il est très très mal compris. Et c'est pour cela que nous devons l'étudier, au moins en savoir les tenants et les aboutissants, comme nous disons en français. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans quel temps nous sommes? Ça, ça fait partie de ce que nous devons avoir comme éducation en tant que chrétiens et de nouveau. Donc nous avons vu que c'est un livre de révélation, c'est ce que veut dire le mot Apocalypse d'ailleurs. Et nous savons, au chapitre 1, nous l'avons vu, Jean reçoit une vision de Jésus-Christ, Jésus qui a été glorifié. Et il est saisi sous la puissance de Dieu. Jean est saisi sous la puissance de Dieu. Le Seigneur lui apparaît dans une vision et au chapitre 2 et au chapitre 3, nous avons vu Jésus donne un message aux sept églises. Ensuite, à partir du chapitre 4, nous avons remarqué que là, il va y avoir une scène céleste absolument extraordinaire, ce qui se passe au troisième ciel. On a vu le trône de Dieu. Nous avons vu les 24 anciens. Nous avons vu qu'autour de cela, il y a la Jérusalem céleste, dont nous aurons une description plus précise un peu plus tard dans les chapitres suivants que nous sommes, après ce que nous sommes en train de faire là. Et nous allons découvrir de très belles choses dans la Jérusalem céleste. Et rappelez-vous, c'est là, à partir du moment quand vous êtes né de nouveau, quand vous mourrez physiquement, votre esprit et votre âme partent au troisième ciel, justement dans la Jérusalem céleste. Alors nous avons dû bien sûr mettre des fondations, parce qu'à partir du chapitre 4, il n'y a plus l'église. Et donc il a fallu expliquer un certain nombre de choses. On a vu la doctrine de l'enlèvement, premier retour de Jésus, Jésus vient chercher son église, les morts en Christ ressuscitent premièrement, nous les vivants nous sommes transformés instantanément, on est tous ensemble élevés dans les airs et Jésus nous ramène au troisième ciel. Pourquoi? Parce que sur la terre va commencer quelque chose qui s'appelle 7 ans de tribulation. Donc nous l'avons étudié. Pour cela, la deuxième fondation qu'il nous fallait pour aller plus loin, nous avons vu, c'est la compréhension des 70 semaines d'année de Daniel. Donc nous avons étudié le chapitre 9 de Daniel. Puis nous avons aussi étudié le chapitre 2 de Daniel. La grande statue qui va s'écrouler. La succession des empires. On voit les Babyloniens. La Bible nous révèle ce que c'est que ces empires, en tout cas le premier. Ensuite, on sait qu'il y a les Mèdes et les Perses. Ensuite, les Grecs. Ensuite, les Romains. Et on voit que cet empire va se séparer en deux, les deux jambes. Et qu'il va y avoir 10 orteils. Et là, ça nous parle de la fin des temps. Évidemment, nous avons commencé à étudier très sérieusement. Donc, nous avons vu aussi cette petite pierre qui paraît insignifiante, qui est le symbole de Jésus, qui va frapper les pieds de la statue et qui va faire écrouler la statue. Symbole des systèmes de ce monde, ce que nous sommes d'ailleurs en train d'étudier en ce moment au chapitre 16, 17 et
18.
Et en fait, l'autre fondation que nous avons aussi étudiée, qui nous a permis d'aller de l'avant, c'est bien sûr les 7 ans de tribulation, où au ciel, nous aurons le tribunal de Christ, nous aurons nos récompenses. Et je vous rappelle que le salut est gratuit, mais votre position, votre récompense aura ce qu'on appelle une double incidence. La première incidence, c'est pendant le millénium, lorsque Jésus va venir régner 1000 ans sur la terre. Nous aurons des positions. Et ensuite, bien évidemment, la deuxième incidence, c'est pour l'éternité. Donc, nous avons étudié tout cela. Et après, nous avons vu qu'à partir du chapitre 5, là, il y a un livre que Jean voit dans le ciel, où personne n'est capable d'ouvrir ce livre. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Puis nous avons étudié les sceaux successifs qui sont ouverts. Et je vous rappelle que la tribulation n'est pas l'œuvre du diable, mais c'est l'œuvre de Dieu, où Dieu va venir frapper les hommes. Et là, il va y avoir 2 camps distincts, très séparés, qui vont commencer à se former. Je vous rappelle que le premier camp, c'est bien sûr les gens qui vont se donner à Christ, parce qu'ils vont voir que nous avions raison, qu'on leur avait prêché l'évangile, qu'on leur avait dit que Jésus revenait. Mais ils ont refusé Jésus. Et là, ils vont commencer à chercher Dieu, chercher les Bibles, se donner à Christ. Mais il va y avoir aussi une réaction opposée. Ce sont les gens qui vont devenir les pires ennemis de Dieu et les pires ennemis des saints. Alors, nous avons étudié les 6 premiers sceaux, et puis il y a le 7e qui est ouvert. Et là, on a vu aussi qu'à partir du moment où il y a le 7e sceau qui est ouvert, le 7e sceau est complexe. Il a 7 trompettes. Donc, il y a d'abord les 6 jugements, et au 7e, le 7e est une multiplicité de jugements. Et on sait que Dieu envoie des fléaux sur la terre pour faire courber les hommes. L'objectif de Dieu, je vous rappelle, c'est de détruire les systèmes de ce monde et de récupérer la gestion de sa propriété, la terre. Je vous rappelle que l'Apocalypse, c'est le livre du royaume de Dieu. Quand Dieu a créé la terre, il a mis l'homme sur la terre, et c'était une extension du ciel. L'homme a chuté, il a donné la gestion au pire ennemi de Dieu, je vous le rappelle. Et là, l'objectif de Dieu est de récupérer la gestion de sa propriété. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Dieu va d'abord restaurer son royaume, c'est-à-dire qu'il va venir régner. Mais après, il va venir l'instaurer, c'est-à-dire qu'il va tout recréer sur la surface de la terre en vue que tout soit Dieu et Dieu soit tout. Je vous rappelle que vous ne devez pas vous ne devez pas perdre la perspective de l'éternité, du plan global.
Parce
que quand nous allons profondément verset après verset, on s'aperçoit que on est un peu, on est plongé dans certains détails.
Mais
je vous rappelle que cette révélation, c'est comme un immense tableau que Dieu nous donne. Et si on veut voir les détails, c'est comme un grand tableau, on s'approche. Et on voit les détails.
Mais
quand tu t'approches trop d'un immense tableau,
tu as
tendance à oublier l'image globale. Donc c'est pour ça que régulièrement, il faut revenir un peu en arrière, revoir l'image globale, pour après à nouveau se plonger dans les détails que Dieu nous donne dans sa parole. C'est ce que nous faisons régulièrement dans l'étude de l'Apocalypse, parce que sinon, ça devient infernal à étudier. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'interprétations sur l'Apocalypse ne sont vraiment, c'est n'importe quoi.
Et ça
crée la confusion. On est en train de dire tout et n'importe
quoi.
Et je vous rappelle que tout ce qui se passera, tous les jugements qu'il y aura, ça se passera pendant la tribulation. Rien de ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, que ce soit des famines, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des crises économiques, que ce soit des guerres ou quoi que ce soit d'autre, rien n'est l'œuvre de Dieu aujourd'hui. C'est l'œuvre du mauvais gestionnaire qui s'appelle le diable, qui utilise les hommes. Soyons bien clairs, parce que ça, malheureusement, il y a trop de chrétiens qui interprètent les choses de la mauvaise manière. Donc nous avons vu Dieu, donc les six premières trompettes vont sonner. Et puis, entre temps, bien sûr, nous avons étudié chapitre 12 et chapitre 13. On arrive à la septième trompette. Et en fait, ce qui va se produire, c'est que Dieu nous montre qu'il va y avoir, bien sûr, l'Antichrist qui va monter. Et je vous rappelle que le rêve du diable a toujours été de faire un gouvernement mondial. Et de contrôler les hommes pour les empêcher de pouvoir adorer le Dieu vivant et vrai. Ça a toujours été son objectif, il a toujours combattu pour cela. C'est pour ça que toutes les persécutions contre les chrétiens nées de nouveau, c'est vraiment satanique, surnaturel et satanique. Ce n'est pas naturel, une persécution n'est pas naturelle. Toute persécution que vous pouvez subir, que des hommes ont pu subir, que Jésus même a subi, c'était ni plus ni moins des esprits sataniques pour essayer d'empêcher l'évangile d'avancer. La persécution est quelque chose de surnaturel et directement lié avec des esprits sataniques. Alors Dieu nous révèle bien sûr au chapitre 12 et au chapitre 13 un certain nombre de choses sur l'ennemi. Ensuite on voit qu'à partir de la septième trompette, Dieu va envoyer les sept dernières coupes de sa colère. Et c'est au chapitre 16 où nous avons découvert cela. Et là, Dieu va vraiment frapper la terre beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement. Je vous rappelle que le Seigneur augmente régulièrement dans la tribulation les jugements. Il frappe de plus en plus fort. Satan fait ses miracles avec son faux prophète. Il se sert de l'Antichrist aussi pour que les gens prennent la marque, fassent une alliance irrévocable avec Satan. Ils sont liés spirituellement à ce moment-là. Et à partir du moment où quelqu'un a pris la marque de la bête, il ne peut pas revenir en arrière. Donc nous avons étudié tout cela, je ne vais pas revenir dessus. Et il va y avoir donc les six premières coupes qui vont être déversées. Et quand la septième coupe va être, la sixième et la septième, excusez-moi, les deux dernières coupes particulièrement, vont dénoter quelque chose de très particulier, qui font d'ailleurs l'objet de deux chapitres, chapitre 17 et le chapitre 18. Et chapitre 17 et chapitre 18 nous parlent de la fameuse Babylone la Grande, ou la grande prostituée. Et là, ce qui est vraiment intéressant à voir,
c'est
que le Seigneur va révéler un certain nombre de choses
que
nous n'avons nulle part ailleurs dans la parole de Dieu sur les systèmes de ce monde et la façon dont ils ont séduit les habitants de la terre.
Mais
chapitres 17 et 18, Jean va recevoir des révélations absolument phénoménales.
Yohana arerekwa ibintu bitangaje cyane.
Sur d'abord la révélation des systèmes de ce monde.
Ubwa mbere abona kubijanye n'ihishurirwa ry'ivyi.
Et nous avions commencé à voir un certain nombre de choses la semaine dernière.
Twatangiye kubona ubuherutse.
À propos justement de cette grande prostituée.
Kubijanye n'uyu bita Maraya hambaye nyina
wa Maraya. À partir des versets 1.
Et nous étions
arrêtés au verset 6.
Et c'est
là où justement nous allons continuer. On va reprendre verset 1 et jusqu'à verset 6 pour faire un petit résumé.
Donc on va relire verset 1 au
verset 6 s'il vous plaît.
Puis
l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous vous rappelez, assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire qui domine les peuples. Les eaux ici, au verset 15 d'ailleurs, ça nous est dit, c'est symbole des nations, symbole de toutes les nations du monde. Verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et là encore, je vous ai montré, hein, l'impudicité ici, ce n'est pas une relation sexuelle physique, c'est ni plus ni moins un terme qui est utilisé, qui veut ni plus ni moins dire l'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui va être adoration de faux dieux. Adoration de faux dieux veut dire adoration de démons, bien évidemment. C'est-à-dire tout ce qui adore, tout sauf le vrai Dieu et le seul vrai Dieu vivant. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Là, je vous ai montré cet aspect de séduction. C'est-à-dire les gens sont comme ivres. Ils sont là sur toute la terre. Ils courent partout. Les gens se lèvent le matin. Ils s'endorment le soir. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils sont comme des fourmis. Si on pouvait étudier toute la terre entière, hein, si on voyait tous les gens, tout le monde s'agite sur cette terre.
Donc il y
a une question de séduction, c'est l'image ici des esprits sataniques, des systèmes de ce monde qui séduisent les êtres
humains. Donc
ils sont comme ivres, c'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes ivre, j'espère que ça ne vous arrive jamais.
Hein. Mais
rappelez-vous, quand nous étions des bons pêcheurs,
certains
d'entre vous, vous aimiez beaucoup boire.
Et
vous faisiez des choses en étant quasiment inconscient.
On
faisait ce genre de choses, pourquoi?
Parce
que nous n'étions plus nous-mêmes, nous étions ivres sous l'effet de
l'alcool.
C'est la même chose pour les systèmes de ce monde. Satan séduit les pécheurs. Ils sont aveugles
et ils
sont comme enivrés,
courant,
cherchant tout et n'importe quoi et ne voyant pas qu'un jour ils risquent de mourir parce qu'on ne maîtrise pas le jour de notre mort, en tout cas quand on est pécheur. Et ça, c'est le problème du pécheur. Le pécheur, il a sur lui une menace de la mort éternelle.
Et donc,
tant qu'il ne prend pas une décision pour Jésus,
il
est comme un homme ivre
à faire tout
et n'importe quoi. Nous étions pareils.
Et ça, c'est
la séduction des systèmes de ce monde.
Verset 3.
Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms. Écarlate, c'est rouge, rouge très foncé, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre éclatant et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, d'impureté et de prostitution. Donc on voit que c'est cette femme qui représente les systèmes de ce monde, et d'ailleurs, si vous avez des Bibles avec des commentaires
Scofield,
Scofield a fait un commentaire avec lequel je ne suis pas d'accord. Il dit que Babylone la Grande, c'est la chrétienté apostate, c'est-à-dire en fait les faux chrétiens.
Avuga ngo Babyloni gisagara gihambaye acita ngo ni abakristo mugango bataribo bazimiye bari mu nyigisho zitarizo.
Vous pouvez lire dans ces commentaires et personnellement je suis pas d'accord. Ici ça représente les systèmes de ce monde.
Ivyo shobora kubisoma mu kugena sobanura wewe mugabo bisobanura byukuri ingene sitwawe
imeze. Les systèmes politiques, économiques et sociaux.
Mene majambo politique yisi, mibano yisi, ubutunzi bw'isi.
Qui bien sûr sont manipulés au travers des esprits sataniques de religion.
Ivyo tuzi ko bitwawe mu buryo bw'impwemu zidi.
Mais je ne comprends pas pourquoi il y a un certain nombre de commentateurs qui mettent que c'est la chrétienté apostate, c'est-à-dire celle qui finalement fait semblant d'être chrétienne et sert le diable.
Et
j'avoue, je ne comprends pas trop pourquoi ils avaient mis cette interprétation.
C'est
une parenthèse pour ceux qui étudient la Bible et qui ont la Bible à commentaire
Scofield.
Autant, comme je vous le dis, Scofield a d'excellents commentaires.
Sur
la fin des temps, vraiment, il a d'excellentes choses.
Mais
là sur ces chapitres-là, je trouve que c'est pas génial les commentaires qu'il fait. Alors, on remonte un petit peu versets 3 et 4, s'il vous plaît, merci. Et en fait, ici, on voit qu'elle est vêtue de pourpre d'écarlate, hein, elle est parée d'or, de pierres précieuses. Bon, là, c'est l'aspect de la séduction du monde.
Oui,
je vous ai montré, l'or est un symbole de la gloire normalement de Dieu. Et là on voit que cette prostituée, c'est représentant les systèmes de ce monde, en fait comme si elle était dans les vraies richesses. Qu'elle se paraît de beauté.
Histoire
d'attirer par la beauté, par les richesses.
Mais
derrière tout ça, ces coupes d'or sont remplies d'abominations. C'est la séduction du monde. Quand on suit le monde et qu'on n'accepte pas Jésus, le diable sait très bien qu'à partir du moment où un homme meurt physiquement, c'est terminé. S'il ne connaît pas Jésus, il ira en enfer.
Satan arazi neza yuko igihe umuntu yakiriye Yesu agiye mu atagiye atamwakiriye akaja mu muriro bameze kuri
we. C'est tout ce qui est décrit là.
Ibyo ni byo batubwira ngaha.
Nous avons vu que cette prostituée, cette Babylone la grande, on a vu à 7 têtes et 10 cornes.
Baratubwiye yuko hariho amahembe indwi afise n'imitwe.
Nous savons ce que représentent les 10 cornes, bien évidemment. Mais ce qui va être très intéressant ici, versets 5 et 6, ça va nous le faire découvrir, c'est un certain nombre de choses qu'il y a derrière les systèmes de ce monde. En fait, ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que Dieu va révéler à Jean les mystères qu'il y a derrière les systèmes de ce monde, mais aussi comment ils vont être jugés à la fin des temps et comment Dieu va les détruire, alors que les hommes à la fin de la tribulation mettront tous leurs espoirs dans cela pour essayer de s'en sortir. Et on va voir qu'au bout d'un moment Dieu va détruire les systèmes de ce monde et les gens vont se révolter contre cette destruction.
Vous
voyez, sur son front, regardez bien, sur son front, rappelez-vous, cette prostituée représente les systèmes de ce monde. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande. La mère, regardez bien, donc l'origine, si vous préférez, celle qui donne naissance à quoi? Aux impudiques, aux mère des impudiques, pardon, et des abominations de la terre. Là encore, ce ne sont pas des hommes. C'est l'idée de l'influence qui constamment veut s'opposer à la vraie connaissance de Dieu. C'est toujours comme ça qu'il faut lire les choses. Ici, on ne parle pas d'homme, on ne parle pas d'impudique en tant qu'être humain, on ne parle pas d'abominable, on parle d'abomination, impudique, abomination, dans le sens d'influence satanique contre la connaissance de Dieu.
Regardons
encore le verset 6 et après nous allons continuer. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Donc bien sûr, nous savons que c'est les systèmes de ce monde qui font tout pour empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Regardez autour de vous, frères et sœurs. C'est phénoménal de regarder ce qui se passe. Regardez par exemple aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés médiatiques. On va louer les bonnes œuvres des personnes. On va louer certaines religions qui font des bonnes œuvres. On fait des choses, on montre des choses, c'est une projection du monde. Mais ce monde ne vous parlera jamais du Dieu vivant et vrai. Regardez autour de vous. C'est phénoménal de voir ça. Comment justement les systèmes de ce monde sont faits pour écarter Dieu. C'est tout ce que les systèmes de ce monde font. Et bien sûr, dans la tribulation, nous savons que là, il y aura beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui vont être assassinés, persécutés, martyrisés, ça nous le savons.
Nous avons
marqué au verset 6, Jean est extrêmement étonné, il est saisi d'un grand étonnement. Pourquoi? Parce que c'est une révélation qu'il reçoit ici. Rappelez-vous, Jean était dans l'Empire romain. Jean avait vécu avec Jésus. Et pendant 3 ans et demi, il l'avait suivi jour après jour dans son ministère terrestre. Jean avait vu l'opposition du monde. Les persécutions contre le maître. Lorsque Jésus guérissait quelqu'un. Lorsque Jésus délivrait. D'un seul coup, il y avait un déchaînement. Et là, d'un seul coup, c'est comme si Jean... Waouh, il dit, mais ça y est, maintenant je comprends pourquoi. Derrière tout ça, il y a un quartier général satanique organisé pour s'opposer à l'évangile. C'est ce que Jean va découvrir. Alors, à partir du verset 7, Jean va recevoir une immense révélation dont nous n'avons pas toute la lumière, mais sur les systèmes de ce monde. Ensuite, nous verrons les jugements des systèmes de ce monde à la fin de la tribulation. Et nous verrons comment Dieu après va les détruire. Alors voilà, maintenant l'ange lui dit, vous voyez, d'abord il lui dit il y avait un mystère. Le mystère de cette femme. Et d'un seul coup, il va lui expliquer ce mystère. La fameuse Babylone la Grande. Je vous rappelle que constamment, dans plusieurs textes, apparemment au Moyen-Orient, il y a des choses spirituelles extrêmement sataniques. Parce que, je vous rappelle, nous avons vu le jardin d'Éden était dans le Moyen-Orient. Nous savons lorsque Daniel était là quand il était à Babylone. Il y a un ange qui va lui parler en disant j'ai été retenu contre le prince de Perse, etc. Et il y a le prince de Javan qui arrive aussi. Nous avons vu que ce sont des principautés sataniques. Plusieurs fois dans l'Apocalypse, nous voyons que Dieu nous parle justement à propos de Babylone, je vous le rappelle. Là encore, ça ressort. Donc il y a quelque chose par là. Du côté de l'Irak, il y a un quartier général satanique, c'est très clair.
Ça,
c'est très clair, la Bible donne plusieurs preuves de cela. Je vous rappelle que ce n'est pas à nous d'aller nous combattre contre cela. C'est Dieu à la fin des temps qui va détruire cela. Mais il est clair qu'il y a quelque chose qui ressort constamment dans différents textes bibliques. Je vous rappelle, nous n'avons pas toute la lumière.
Donc,
nous ne pouvons pas en faire une espèce de doctrine ou essayer de faire chercher des révélations sur cela. Notre objectif numéro un est d'aller prêcher l'évangile aux nations. De faire des nations des disciples. Que les chrétiens soient éduqués dans tous les domaines. Dans les lois du royaume de Dieu. Et là où Dieu nous place. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire tout un tas de trucs. Et au bout d'un moment, ils s'égarent complètement. Jésus nous a donné une grande mission.
Ce
n'est pas d'aller découvrir Babylone la Grande. C'est Dieu qui s'en occupe à la fin des temps. Ok, il faut être clair là-dessus parce que je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens quand ils commencent à entendre certaines choses, ils commencent à prier dans tous les sens et à vouloir commencer à agir et à faire des choses qui sortent du cadre de ce que Dieu nous a demandé de faire. Rappelez-vous, vous avez une autorité spirituelle, vous avez un champ d'action dans lequel vous devez rester. Et ça, c'est très important. C'est de prêcher l'évangile, de guérir les malades, de délivrer les démoniaques, que le peuple de Dieu soit enseigné, qu'il pratique les lois spirituelles, qu'il soit influencé par les lois du royaume. Ça, c'est notre rôle à 100%. Par contre, ce n'est pas à nous d'établir le royaume de Dieu sur la terre, parce que là aussi, il y a des abus sur les enseignements du royaume de Dieu. Ce n'est pas à nous d'établir le royaume de Jésus sur la terre. Par contre, individuellement, tu dois régner sur les circonstances dans cette vie.
Et
Jésus viendra régner sur la terre. C'est lui qui prendra possession de sa propriété. Je tiens encore à faire cette parenthèse parce que souvent, quand on commence à enseigner sur la fin des temps, les gens vont dans tous les sens. Donc, ici, l'ange va lui répondre parce qu'il voit que Jean est dans un immense étonnement. Jean voit devant lui l'origine du mal sur la terre. Il voit pourquoi, il s'est dit, ça y est, maintenant, cette vision, apparemment, ça le bouleverse complètement. Et il lui dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les sept têtes et les dix cornes.
Ngo umumareka aramubaza ati niki kigutangaje ndakubwira akabanga kuri ya mugore naki gikoko agendera ko gifise imitwe indwi n'amahembe 10.
Alors là c'est assez intéressant certaines explications que l'ange va lui donner.
Alors biratangaje biraryoshe kubona insobanuro amuha umumarayika.
Mais les interprétations ne sont pas forcément très évidentes, il faut le dire.
Donc
voilà comment nous allons procéder. On va procéder un peu comme les devoirs de mathématiques. Si vous voulez des points pour réussir un devoir de maths, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez être stratégique. Quand vous voulez rédiger un devoir de maths, vous avez par exemple 5 problèmes à résoudre. Si vous regardez, si vous vous dites je dois faire le premier problème en premier, qu'est-ce que vous allez faire? S'il est facile, tant mieux pour vous. S'il est très difficile et que vous perdez 2h30 sur les 3h, qu'au bout de 2h30, vous n'avez toujours pas résolu le premier problème. Vous allez regarder votre montre et vous dire, oh, il me reste 30
minutes.
Et là, vous allez regarder les autres problèmes. Et vous allez faire ça tellement rapidement. Vous allez faire des erreurs. Et au lieu d'avoir une belle note, eh bien, vous aurez en dessous de la moyenne. Ah, dites amen à ma grande théorie. Alors, ici, en fait, ce qu'on va regarder un petit peu, on va y aller étape après étape. Parce que sinon, nous allons lire le texte. Et on va lire donc à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Et après, on va interpréter ce qui est le plus facile à interpréter d'abord.
On va
faire le problème le plus facile d'abord. Et donner la réponse en premier. Et puis après, on va commencer à revenir vers les questions les plus difficiles. Comme ça, on va avoir une bonne note sur l'interprétation de la Bible. Alors, regardez bien. La bête que tu as vue, verset 8, était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10, ce sont aussi sept rois. Regardez bien, ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept. Ah, elle est au nombre des sept et c'est un huitième. Et elle va à la perdition. Verset 12, les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité pendant une heure avec la bête. Verset 13, ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alors, on va tout de suite interpréter verset 12 et verset 13 parce que ça c'est facile.
Nakatugaragaza gusobanura umurongo wa 12 na 13 uvuga ngo kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cagikoko nk'abami nyene kumarisa himwe abo bahuza inama bahacagikoko bubasha bwabo n'ubutware bwabo.
Alors verset 12 et verset 13, vous avez compris, on parle de quoi? On parle des 10 cornes.
Urumva ngaha batubwira ya mahembe 10 twama tuvuga.
On sait que ça fait référence à quoi? Parce que nous avons déjà étudié ensemble les dix nations qui vont être ensemble, un roi qui va sortir d'eux, qui va être l'Antichrist et qui va établir le gouvernement mondial. Donc verset 12 et verset 13, ça nous ramène ni plus ni moins dans ce que nous avons étudié, entre autres au chapitre 13 de l'Apocalypse, dans Daniel chapitre 7, sur l'Antichrist et la façon dont il va prendre le pouvoir et établir le gouvernement mondial pendant 3 ans et demi. Donc ça, c'est assez simple. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, l'ange va lui expliquer l'histoire des systèmes de ce monde sur l'histoire de l'humanité. Et là, il y a deux choses bien distinctes. Il y a donc les sept montagnes, mais il y a aussi quoi? Les dix cornes. Donc, ça va. En fait, Jean va voir en quelque sorte l'histoire de l'humanité se dérouler. On sait que tout à la fin, il va y avoir ce gouvernement mondial, les 10 cornes, les 10 nations ensemble, qui vont recevoir un pouvoir de la part de la bête, mais qui vont être dominés par la bête, l'Antichrist, pour dominer toute la terre entière
et
pour faire le plus de mal possible. Donc ça, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est à la fin. Maintenant, on va revenir sur ces sept têtes qui sont des sept montagnes.
Les sept montagnes.
Ça, c'est un peu plus difficile à expliquer. Donc, on va reprendre le verset 7. Et nous allons voir jusqu'au verset
11.
7 à 11. Nous allons relire cela. Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'ange a expliqué à Jean. Donc, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. Ok, sept têtes et dix cornes, vous vous rappelez, nous avons cette image du diable. Le diable, à partir du chapitre 13 d'Apocalypse,
On nous donne
aussi au chapitre 12 cette image
du dragon,
après de l'antichrist qui est la bête,
avec
les sept têtes et les dix cornes. Ce sont bien sûr des symboles qui vont marquer particulièrement l'histoire de l'humanité à partir des puissances diaboliques. Donc on sait que les dix cornes, particulièrement, c'est réservé juste pour la grande tribulation. Maintenant, sur les sept têtes, il y a quelque chose qui est, en quelque sorte, qui est doublé. Ça a deux sens. Rappelez-vous qu'une tête, ça représente une autorité d'abord. Et je vous ai montré que le diable est représenté par un monstre à sept têtes. Et dix cornes. Dix cornes pour le gouvernement mondial. Mais sept têtes. Rappelez-vous l'origine du diable. L'origine du diable. C'était un chérubin. Donc, rappelez-vous les créatures angéliques de plus haut rang, il n'y en a pas de plus haute. Revêtus de pouvoir divin. Et c'est clair que ces sept têtes représentent sept pouvoirs. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, bien sûr. Donc, lorsque Jean voit cette grande prostituée qui domine sur les nations, assise sur les eaux, qui est aussi sur la bête. Donc tout cela, évidemment, ça montre une domination. Je vous rappelle. Mais au travers de cela, avec les sept têtes, cette prostituée a sept têtes. Et ça, c'est l'image, en fait, des systèmes de ce monde où Satan utilise ces sept pouvoirs différents pour influencer les nations. Ça, c'est un premier aspect. En fait, rappelez-vous que le diable ne peut rien faire s'il n'a pas des hommes qui se soumettent à lui. Ça, c'est très important à bien comprendre. L'ennemi ne peut rien faire sur cette terre s'il
ne
trouve pas des hommes qui écoutent son influence. Et c'est sept pouvoirs sataniques. Bien sûr, c'est des pouvoirs divins qu'il a pervertis, je vous le rappelle, avec sa chute. Qu'il utilise bien sûr contre Dieu. Depuis qu'il a chuté, en fait, il fait passer cette influence au travers des systèmes de ce monde. Ça, c'est le premier côté justement de ces sept têtes. Maintenant, un peu plus compliqué à comprendre, on va continuer vers le verset 8. Alors, quand il est dit, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Je vous rappelle que ça, c'est ce qui anime l'Antichrist.
Il
va apparaître. Au bout d'un moment, va disparaître dans le sens où il n'aura plus d'influence sur la terre. Et un jour, il ressortira de l'abîme pour le jugement éternel. C'est ça que ça veut dire ici. Rappelez-vous, Jean voit plusieurs choses. Il voit en fait les systèmes de ce monde, l'origine des systèmes de ce monde. Mais il voit aussi les jugements des systèmes de ce monde. Et il voit la destruction des systèmes de ce monde. Là encore, quand nous étudions des détails, de temps en temps, il faut se reculer pour voir l'image globale.
Nous
parlons ici dans le chapitre 17 et 18 des systèmes de ce monde. Donc c'est pour ça qu'il dit elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition. Okay? Donc la mort éternelle. Nous allons voir cela dans le chapitre 19 d'ailleurs. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Donc c'est la même chose, ils seront là et ils assisteront au jugement de Dieu.
Quand Baba Kwisi batandit kwa mazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kwisi bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka.
Alors maintenant verset 9 et 10.
Umurongo w'icenda no w'icumi.
9, 10 et 11, on va lire précisément.
9,
10 et 11. Il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10, ce sont aussi, ok, ce sont aussi. Alors, sept têtes, on a expliqué les sept montagnes, sept pouvoirs d'influence satanique sur les systèmes de ce monde. Donc, sept pouvoirs, sept têtes qui représentent sept pouvoirs. Sept pouvoirs que le diable utilise
Satan
au travers des systèmes de ce monde. Est-ce qu'on peut remettre au verset 9, s'il vous plaît, merci, parce qu'on y va doucement, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Okay? Donc, sept têtes sont sept montagnes, donc sept montagnes sur lesquelles la femme est assise, donc les sept pouvoirs sataniques. Alors, il faudrait étudier un peu plus pour savoir quels sont ces sept pouvoirs. Mais la Bible nous en parle, c'est très clair. Au travers de cela, Satan influence les systèmes de ce monde.
Voilà.
Évidemment, contre Dieu, contre la connaissance de Dieu. Maintenant, regardons bien le verset 10. Il dit, ce sont aussi, vous voyez, ça représente deux choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Ce sont aussi ces trois. Donc, vous voyez bien ce qu'il dit ici. Hein. Les sept montagnes, sept têtes représentant sept pouvoirs, parce que c'est vraiment le transfert de l'image de Satan. Mais là, par contre, il dit, ce sont aussi sept rois. Rappelez-vous, Jean voit l'origine des systèmes de ce monde. Il va voir comment Dieu va les juger. Et comment ils seront détruits.
Rappelez-vous
bien de ça, c'est important. Parce que là, on se plonge dans ce que Jean voit. Il a une vision ici. Nous avons vu les 10 cornes, il voit juste la fin. Ok, ça va, ça c'est facile à interpréter. Mais là, il voit les 7 têtes. Qu'est-ce que ça représente? D'une manière générale, les 7 pouvoirs d'influence au travers des systèmes de ce monde sur les nations.
Muri rusangi imitwe ndwi nububasha bwa satani akoresha mwisi mukugira twarisi.
Mais l'ange va ajouter quelque chose.
Omumareka mugaba caramwongera
ku kindi kintu. Ce sont aussi sept rois.
Yongera kumbwira ngo ni nabami indwi.
Regardez bien, il va dire cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester peu de temps.
Ngo abatanu barakombowe umwe ariho wundi we ntaraza kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito.
Alors ça, c'est un verset qui est difficile à comprendre.
Akarana gapfindo kagoye.
Alors, on va lire le verset 11.
Turasoma murongo w'11.
On va toujours faire la stratégie du devoir de mathématiques.
Reka dusubire dukore nk'abize ibiharuro kwa kundi babigenza.
Et ça nous aide. Quand il y a des textes vraiment difficiles à comprendre, parfois il faut aller un peu plus loin, revenir en arrière, repartir, revenir.
Nuko bimeze iyo uhuye n'igisomwa kigoye bandanya imbere hama usubire ugaruke kugira ngo ushobore kubitahura byose.
Alors là déjà on va avoir une explication. On va déjà avoir, je dirais, quelque chose qu'on peut comprendre. La bête qui était qui n'est plus, et on sait que la bête c'est qui? C'est l'Antichrist.
Gokandi cha gikoko igikoko naco murazi ko ari Antichrist bavuga.
Qui n'est plus est elle-même un huitième roi et elle est du nombre des sept.
Gokandi cha gikoko cariho kandi kitakiriho ico ubwaco nugira umunani ariko kandi numwe.
Et elle va à la perdition.
Kandazoja kuranduka.
Donc nous savons que la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, fait partie de ces sept rois. Rappelez-vous qu'on est en train de voir défiler l'histoire de l'humanité.
Depuis
le début, Adam et Ève, un certain nombre d'empires qui se sont succédés. Et jusqu'à quoi? Jusqu'à l'Antichrist, qui représente le septième roi, qui est considéré aussi comme un huitième, en quelque sorte, un double roi. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée, parce que la Bible ne nous le dit pas ici. Mais c'est clair que c'est considéré comme un septième roi, en faisant partie du groupe des sept rois, qui sont donc l'image, une partie de l'image des sept têtes des systèmes de ce monde. Donc on sait que le septième, nous le savons, c'est l'Antichrist. Maintenant, quels sont les six autres? C'est une question qu'on peut se poser. On revient au verset 10. Alors, ce sont aussi, donc rappelez-vous, les sept têtes, la double image ici, ce sont aussi ces trois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Relis ce verset, s'il te plaît.
Kandi niyo bami indwi, nabami indwi. Abatanu barakombowe, barakuweho. Umwe ariho. Uwundi we ntaraza, kandi niyaza, azoba ari uwo kumara igihe gito.
Alors, on sait une chose. Dans les prophéties de la fin des temps, vous vous rappelez, il y a la statue de Daniel. Et le Seigneur a montré un certain nombre de choses à Daniel. Et rappelez-vous qu'il va lui montrer quatre empires qui vont se succéder. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Ça fait quatre. Certainement, la question qu'on peut se poser, reprochons le verset 10, s'il vous plaît. Merci. Dans les cinq qui sont tombés, certainement, les quatre premiers font partie des Babyloniens,
Mèdes
et Perses, Grecs et Romains.
Rappelez-vous
que l'Empire romain est tombé.
Il
se reconstituera vers la fin des temps. Puisque nous savons que l'Empire romain qui faisait tout le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient
rappelez-vous,
l'Afrique du Nord, tout le Moyen-Orient, jusqu'à l'Irak et l'Iran, et toute l'Europe du Sud. nous savons qu'il va y avoir des associations ici entre des nations pour la fin des temps. Donc certainement que les quatre premiers sur les cinq sont entre autres Nabucodonosor, entre autres avec les Mèdes et les Perses Darius, avec Alexandre le Grand les Grecs, certainement César pour les Romains, Jules César. Mais là on en a quatre. Qui est le cinquième? On peut se poser la question. Mais on ne sait pas. Alors, peut-être qu'en étudiant un peu plus scrupuleusement l'histoire de l'humanité, on peut peut-être trouver le cinquième. Alors, il dit ensuite, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc sur le sixième, nous n'avons pas aussi de réponse. Le dernier dont il est parlé ici, et quand il sera venu sur le sixième, il doit rester peu de temps. Est-ce que c'est Hitler? Peut-être ou peut-être pas. Puisqu'il a été à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'il est resté peu de temps. C'est possible que ce soit lui. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelqu'un d'autre encore plus méchant qui va venir avant le premier retour de Jésus? Vous savez, quand il y a eu la Première Guerre mondiale et après qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de chrétiens pensaient qu'on était tout de suite dans la fin des temps. Vraiment, ils se sont posé beaucoup de questions. Ils se sont dit, c'est la fin, ça y est, c'est fini. Parce que croyez-moi, des guerres mondiales, il n'y en a eu que deux pour l'instant. Il y a eu deux guerres mondiales et elles se sont succédées. 1914-1918 et dans le même siècle,
39-45.
Et beaucoup de chrétiens se sont posé beaucoup de questions à ce moment-là. Alors, est-ce que ce fameux sixième qui était là, il doit rester peu de temps? Est-ce que c'était Hitler? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, aucun empire n'a fait autant de mal au peuple juif qu'Hitler et les Allemands. Quand on étudie l'histoire de l'humanité, les Juifs ont été persécutés par moments, à différents moments. Mais il n'y en a jamais eu qui ont été autant tués dans ce génocide avec les nazis. Peut-être que c'était le sixième roi, entre guillemets, le sixième leader. Donc, à part cela, on ne peut pas donner trop d'explications, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Le verset 10 nous donne l'histoire de l'humanité prophétique pour Dieu. C'est ce qu'on peut remarquer là-dessus, qui ont marqué les systèmes de ce monde.
Donc
on peut refaire défiler le verset 11. Et en fait, on sait que le septième, c'est donc la bête, ça va être l'Antichrist, qui est lui-même un huitième aussi, qu'on considère, en tout cas prophétiquement. Ensuite, verset 12. Là, nous savons les dix rois. Là, c'est juste pendant la deuxième partie de la tribulation, au début.
Où
l'Antichrist prend le pouvoir avec ce noyau fort qui va s'élever contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Ça, nous l'avons très largement étudié. Verset 13, il est dit, ils ont un même dessein, c'est du roi, et dix rois, ils donnent leur puissance et le pouvoir de la bête. Ils combattront, verset 14, l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Abo bahuza inama bahacaga ikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo, abo bazogwanya umwahagazi w'intama, uwo mwahagazi azobanesha kuko ari waganza baganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe batoranije bayobotse.
Donc au verset 14, cela concerne bien évidemment, comment dire, la bataille d'Armageddon, l'issue de la bataille d'Armageddon.
Alors, et au murongo wa 14 utubwira ingene intambara ingwano ya Armageddon izohera.
Et nous avons deux textes là-dessus. On peut lire l'Apocalypse 19.
Turashobora gusoma ivyahishuro 19 tukabitahukirwa ko gato.
Ou là, on va voir brièvement, mais on reviendra dessus, verset 11 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 21, excusez-moi. On va lire comment, en fait, Jésus va revenir, sa deuxième venue, donc.
Donc je
vais lire en français. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc vous savez qui c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, bien sûr. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Rappelez-vous, les nations ici, bien sûr, c'est tous ceux qui sont rebelles, qui se sont liés avec l'Antichrist contre le Seigneur et contre ses saints, bien sûr, et qui font des choses abominables à ce moment-là sur la terre. Il les pétera avec une verge de fer et les foulera, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, on verra les oiseaux, les symboles des oiseaux aussi, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Verset 18, « Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous les libres et les esclaves, petits et grands. » Verset 19, « Et je vis la bête, donc l'Antichrist, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Verset 20, « La bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Verset 21, « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » En fait, ici, la Bible nous montre ni plus ni moins ce qui va se passer à la bataille d'Armageddon et comment Jésus va revenir en gloire pour écraser l'Antichrist.
Ariko urasomangaha rero bona intambara ya Armageddon iheze ingene Yesu azoza kugira ngo aneshe Antichristo.
Comment il va anéantir donc le faux prophète, l'Antichrist, et toutes les armées qui se seront liées dans la vallée de Megiddo. Nous allons étudier cela.
Ingene azoza akagwanya kandi akanesha Antikristo n'igisirikare n'ibisirikare byose bizoba byahagurutse ngo bigwanye Israel muri wa mwanga wa Makedoni.
Donc ça c'est le verset que nous avons lu dans l'Apocalypse 17, et bien fait référence à cela. Quand l'agneau va venir vaincre.
Les rois
et la bête. Donc nous, ça, nous allons l'étudier dans les prochaines séances.
Et
juste pour mémoire, nous allons relire 2 Thessaloniciens 2, versets 8 et 9.
Ariko kugira ngo twibutse reka dusome abi Tesalonika ba mbere 2:19.
Donc 2 Thessaloniciens 2.
Abi Tesalonika ba 2:2.
Verset 8 et verset 9.
Umurongo w'umunani n'uw'icenda.
Et c'est là où nous allons revoir. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus, rappelez-vous, détruira par le souffle de sa bouche, ça c'est le deuxième retour de Christ, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc quand Jésus va revenir, il va venir écraser l'Antichrist avec toutes les armées qui seront dans la vallée de Megiddo en Israël, que nous avons vu précédemment avec une carte, je vous rappelle, l'apparition de cet impie, etc., etc. Donc c'est verset 8 surtout qui m'intéresse, si tu peux le lire.
Mwaniho wa mugarariji azohishurigwa umwami Yesu azokwicisha impwe muziva mu kanwa kiwe azomutituza uguseruka kukuza kwiwe ukuza kuwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani kuri n'ubushobozi bwose n'imenyezo n'ibitangaza by'ibinyoma.
Alors, ensuite, on va revenir donc à Apocalypse 17.
Reka tugaruke mu byayishuro 17.
Et on va commenter donc les versets 15 au verset 18.
Reka tugaragaze kuvuga kuva ku murongo wa 15 gushaka kuri 18.
Maintenant, nous avons vu la description en fait.
Que
Jean a dans les systèmes de ce monde, comment ils ont évolué. Justement, petit à petit, nous allons voir comment Dieu va donc les détruire. Et donc juger et détruire. Et ça, c'est justement l'objet du chapitre 18 après. Mais entre-temps, nous allons quand même faire des commentaires sur les derniers versets de ce chapitre 17. Donc, rappelez-vous, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues.
Ngo arambwira ati ya mazi wabonye Maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi.
Donc ça, je vous le rappelle, c'est au début de la vision où il voit cette prostituée qui est assise justement sur des eaux et il en donne l'explication ici. Nous avions déjà vu ce verset.
Amwibuke twari twabonye umurongo aho bavuga yuko ngo Maraya yicaye ku mazi menshi arasobanuye amazi icarico.
L'image des systèmes de ce monde qui contrôle et influence toutes les nations de la terre.
Urumva ni gicapo cingene y'isi uko tubibona uyu munsi biganje kandi bifashe abantu
bose. Maintenant, regardons le verset 16. Les dix cornes que tu as vues et la bête, regardez bien, haïront la prostituée. Ils la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Alors, regardons un peu verset 17. Et on va expliquer après le verset 16. Et Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, en fait, on va lire même le verset 18, comme ça va clôturer le chapitre. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Ok, verset 16
et 17. C'est un peu étonnant parce qu'on voit finalement quoi? On voit que c'est les dix cornes, donc les dix nations. Et au bout d'un moment, en fait, vous savez, les systèmes de ce monde vont craquer parce que Dieu va commencer à les détruire. Rappelez-vous, plus on avance vers la fin de la tribulation, plus Dieu envoie des jugements très sévères sur la terre. Rappelez-vous la séduction de la bête, donc de l'Antichrist. Et du faux prophète, c'est de dire, oh, vous en faites pas, nous on a des solutions, mais venez, venez, on va vous montrer. Et il y a des miracles qui sont faits. Et les gens sont séduits. Et en fait, le diable essaye au travers de l'Antichrist et du faux prophète de montrer qu'il y a des solutions si on suit l'Antichrist, si on prend la marque de l'Antichrist. Si on a le diable, alors on peut avoir un certain nombre de réponses, de solutions dans un monde que Dieu aura secoué dans tous les sens. Mais là on arrive à la fin de la tribulation. Dieu frappe de plus en plus fort, il frappe jusqu'à temps que les systèmes de ce monde commencent à s'écrouler. Et là les dix nations qui ont constitué le noyau de la, comment dire, du gouvernement mondial vont perdre confiance parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Et apparemment, c'est là où il y a une rébellion. Vous savez, souvent, c'est ce qui se passe. Quand il y a un ennemi, Dieu a fait souvent cela dans l'Ancien Testament. Quand il y avait des ennemis d'Israël, plusieurs fois, Dieu a confondu les ennemis et ils se sont dressés l'un contre l'autre. C'est exactement ce qui va se passer juste à la fin de la tribulation. Tous ces rois qui s'étaient associés avec
l'Antichrist
vont se fâcher contre justement ces systèmes parce qu'ils vont s'apercevoir que ce n'est pas la solution. Mais ça sera trop tard. Tout va s'écrouler. Tous les systèmes financiers vont s'écrouler. Tous les systèmes sociaux vont s'écrouler. Tous les systèmes politiques vont s'écrouler. Tout va s'écrouler. Et les gens qui auront pris la marque de la bête vont se révolter contre ces systèmes-là. Et ça va être la fin. C'est ce que ce verset nous montre. C'est exactement ce que ce verset nous montre. Regardez bien maintenant le dernier verset du chapitre. Là, il va nous montrer quelque chose. Verset 18. La femme que tu as vue, regardez bien ce qu'il dit, c'est la grande ville. C'est, il voit dans le monde spirituel. Rappelez-vous, ce n'est pas quelque chose de matériel. Faites attention. Et il dit que tu as vu, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Eh
bien, en fait, quand nous allons étudier le chapitre 18, on va juste voir un verset ce soir du chapitre 18, c'est le verset 2. En fait, Jean réalise une chose. C'est qu'il y a un quartier général satanique. C'est très clair. Ces passages-là nous le montrent clairement. Le chapitre 17 et le chapitre 18 nous le montrent clairement. 18, verset 2, s'il vous plaît. Regardez bien. Il cria d'une voix forte disant, « elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère. » Un repère. C'est pas une borne ici. Hein. C'est pas le repère R-E-P-E, accent grave R-E. C'est pas pareil. Repère P-A-I-R-E. C'est-à-dire une maison, une habitation. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ok. Un repère. Là où les gens se rassemblent en quelque sorte. Où les êtres se rassemblent. De tout esprit impur. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux.
Baravuga ngaha ngo asemerera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse kirakomvomvotse. Babuloni cha gisagara gihambaye gicitse kibanza cy'abadayimoni aharindigwa impwe muzihumanya zose aharindigwa ibisiga bihumanya byankwa byose.
Donc ça nous redonne encore une preuve claire au travers de l'écriture.
Aroni kindi kimenyetso bicemwe ijambo ry'Imana.
Qu'il existe bien un endroit localisé.
Kitwereka yuko hariho ikibanza ahantu
qui est vraiment le siège du quartier général de Satan.
Hari ibiro bikuru Satani akoreramo.
C'est très clair. On le voit à plusieurs reprises. Jean le voit au verset 18 qui nous décrit verset 18 du chapitre 17. C'est là où il y a une habitation entre guillemets. Ce n'est pas une habitation physique, je vous le rappelle, ce n'est pas une ville physique. Mais c'est clair qu'il y a un quartier général satanique. Les chapitres 17 et 18, c'est exactement ce que Jean a vu. Il a vu comment, quelle en a été l'origine. Comment au cours de l'histoire, les choses vont se produire. Comment Dieu va venir juger ce quartier satanique. Les systèmes de ce monde qui sont à l'origine des systèmes de ce monde. Et comment il va les détruire. C'est le chapitre 17 et le chapitre 18. La prochaine fois, nous étudierons le chapitre 18. Et nous découvrirons un peu les réjouissances dans le ciel et de la part des rachetés. De ce que justement ils verront, nous verrons toutes les, comment dire, les réactions diverses qu'il y a eu sur la chute des systèmes de ce monde.
Que
le Seigneur vous bénisse.
Et
bonne soirée à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.